Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Avant de vous raconter la vie de Jeanne, dite Jeanne Hachette, je veux quand même préciser que les historiens ne sont pas tous d'accord en ce qui la concerne. Moi, je me suis inspirée du livre de Sylvie Binet, professeure de lettres, qui s'est servie d'une documentation extrêmement solide. Jeanne naît à Beauvais, exactement dans le hameau de Bousseau, dans une petite vallée de Picardie. Elle vit la famine, les épidémies, la guerre, qui vraiment ont ruiné cette région. Les paysans sont partis en masse vers la ville, parce que la ville manque de bras. La famille de Jeanne vit sur un petit lopin de terre. En 1460, 10 ans après la bataille de Formigny, qui a chassé les Anglais de Normandie, on espère un lendemain meilleur. Pierre, le papa, est respecté dans le hameau. C'est un rude travailleur. En ce moment, il pleut depuis des semaines. Pourtant, Pierre et sa fille s'apprêtent à sortir. Dans quel but? Eh bien, pour chasser quelques petits gibiers. Pourtant, la chasse est réglementée. Il est interdit de braconner sous peine d'une forte amende. Le jour n'est pas encore levé. L'homme et l'enfant se dirigent vers les bois. Ils vont vérifier chaque collet avant le passage des gardes. Le vent humide et frais pénètre leurs vêtements, mais il n'est pas question de rebrousser chemin, car cette année, la moitié du porc doit être vendue pour acheter des pois et des lentilles. Les lapins pris au collet permettent d'avoir un petit peu de viande. La vie quotidienne est difficile. Les cultures de blé et d'orge, ajoutées à l'élevage d'une trentaine de moutons, permettent péniblement de payer les redevances au seigneur. Pierre emmène souvent Jeanne avec lui dans ses expéditions nocturnes. Bien sûr, ce n'est pas comme avec un garçon, mais à 6 ans, son corps souple et musclé peut se faufiler dans les taillis qu'aucun homme ne peut pénétrer. Pour retourner à la maison, on évite les chemins trop fréquentés qui mènent à Beauvais. Jeanne est utile. Imaginez qu'elle transporte sous son manteau une vieille escarcelle transformée en gypsière. De son éducation religieuse, il reste à Pierre des principes de la Bible et ce qu'il ne connaît pas, eh bien, c'est la lecture des Écritures qui lui a été enseignée dans l'Église par les images saintes. Et que lui dit son éducation? Eh bien, que la vie terrestre est pleine d'imperfections et de péchés et que les tentations sont nombreuses. Aussi, finalement, braconner ne constitue-t-il pas à ses yeux une faute? C'est une attitude simplement humaine devant les nécessités de l'existence. D'ailleurs, il n'a jamais été pris et il n'a jamais eu besoin d'acheter des bondieuseries en guise de protection. Sur le chemin du retour, Pierre et Jeanne passent par le verger, bordé d'une petite vigne qui donne un vin blanc appelé vin de Fromental. Lui, Pierre, il ne le produit pas. Le raisin, il l'apporte à l'abbaye de Saint-Corneille de Compiègne. Jeanne ne peut pas courir tant sa besace lui pèse. Elle aperçoit en rentrant sa mère courbée, traçant un sillon avec un piochon, une petite pioche. Sa mère, on l'appelle la Marois. Elle a à peine 30 ans, 3 ans de plus que son mari. Elle ne manque pas d'autorité et dit à Jeanne de faire à son père une soupe bien chaude de pain. Jeanne s'empresse d'obéir, elle obéit toujours. Son père assis regarde les flammes. L'air humide traverse les interstices de la charpente ainsi que les minces fenêtres tendues de toile enduite de cire. Le sol est en terre battue. Pierre avale en silence le bouillon auquel Jeanne a ajouté un petit morceau de saindoux. Quand son père aura fini, elle avalera son assiettée. Pierre lui demande alors d'aller aider sa mère à préparer le sol pour semer le métaï. Le métaï, c'est un mélange de blé et d'orge. La Maroua aime bien faire des galettes avec cette farine. Là, au moins, ils gardent tout pour eux. Jeanne et sa mère partent ensuite ramasser un peu de bois. En revenant, la mère ne peut s'empêcher de dire que lorsqu'elle avait l'âge de Jeanne, c'est-à-dire 6 ans, eh bien, ils avaient 2 vaches, mangeaient du beurre salé tous les jours, et les femmes ne travaillaient pas au champ, et on n'avait pas besoin de braconner. Petite allusion à leur pauvreté actuelle. Une vague de tendresse illumine le visage de Jeanne lorsque sa mère parle de son enfance. Se sachant écoutée et comprise, la Maroua sourit. La petite fille s'écrie alors « Voici la maison que Dieu nous a donnée. C'est la plus belle, n'est-ce pas ?» L'enclos délimite le terroir des ruches jusqu'à la pantie où est parqué le cochon. Comme la Maroua est fière de la petite Jeanne avec ses yeux bruns bordés de longs cils et son regard expressif, elle détonne parmi les petites filles de Bousseau. Les journées de plus en plus courtes annoncent la venue de l'hiver. Cette année, les travaux des champs s'organisent en paix et de calme, apparent, en comparaison des années de guerre et de misère dans le pays depuis 1450. On a toujours peur de l'arrivée de mercenaires poussés par la faim et le froid, de bandes organisées en quête de bétail à voler. Jeanne grandit dans ce climat d'insécurité, de peur imaginaire ou réelle. Pour essayer de rassurer la population, le roi oblige Beauvais à entretenir à ses frais un nombre d'archers proportionnel à la population. On dit que la guerre contre l'Angleterre a été perdue par l'insuffisance d'arbres à l'étrier. Jeanne aime bien regarder les messieurs s'entraîner. Sa famille vit au rythme des saisons et du climat pour se préserver des querelles politiques et de la nature souvent hostile. À l'approche du solstice d'hiver, on se prépare pour la fête de la nativité. Alors on tue le cochon. Le destin de chacun dépend uniquement de sa capacité à supporter la rigueur de l'hiver avec une nourriture moins riche. L'opulence et la gaieté de ces fêtes de la nativité fascinent Jeanne. Les rues ont été nettoyées, recouvertes de branches de gui et de houx. Tout le monde se rend à la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais. Pour Jeanne, l'office est un moment magique. Elle aime la foule qui se met à chanter à plusieurs voix. Au sortir de la cathédrale, tout le monde se hâte de rentrer chez soi. On se regroupe pour rejoindre sa maison parce qu'il faut toujours être sur ses gardes. On évite de passer devant une auberge pour ne pas rencontrer un ivrogne. Jeanne craint davantage les histoires de sa voisine que les bagarres dont elle est accoutumée. Elle perçoit le monde à travers les événements de sa vie quotidienne et sa logique est empreinte de fatalisme que chacun autour d'elle vit à sa manière. Sa mère, la Maroua, ne lui montre jamais le côté diabolique de la vie. Elle insiste plutôt sur le caractère transitoire de toute chose, puisque son seul et unique souci à cette mère, c'est d'atteindre le paradis. À l'annonce du printemps, Pierre rapporte du fumier qui va servir donc à étendre sur la terre. Jeanne adore l'odeur de ces tas fumants. Elle les contemple avec vanité, comme une bourgeoise qui évalue son territoire et ce qu'il va lui rapporter. Tout ce qui poussera de cette terre sera pour leur consommation courante. Ils échangeront aussi leurs légumes contre de la viande et du poisson. Du lever du soleil au coucher, Jeanne apprend son rôle de femme. Les bois et les sombres forêts ont quelque chose de magique pour Jeanne. Même si ces lieux, où son père l'emmène parfois avec lui à la chasse, lui sont familiers. Il lui arrive même de s'y rendre accompagné de quelques fillettes du village pour ramasser tout ce qui est comestible. Elle confectionne un bouquet de feuilles qu'elle dépose ensuite sur la tombe de François, le fils mort-né de Pierre et de la Maroua, ses parents adoptifs. Alors que Louis XI est roi de France depuis l'été 1461, les paysans du Beauvaisis hésitent à reconnaître en lui leur souverain. Pour ces gens de la terre, un chef est un avant tout un chef de guerre qui les protégera des ennemis et des brigands. Comment un roi habillé comme un paysan et davantage préoccupé par la chasse peut-il les convaincre qu'il est leur bienfaiteur? En fait, Louis XI n'a qu'une ambition, étendre ses pouvoirs et consolider l'unité du royaume. Nous allons faire une première pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Jeanne, que l'on a appelée Jeanne Hachette. Tout au moins, je vous raconte pour l'instant son enfance. Donc, le roi Louis XI, qui règne à ce moment-là, exige de ses vassaux un état détaillé de leurs fiefs. Le clergé doit déclarer les moindres parcelles de terre, doit retrouver les titres de propriété pour des acquisitions qui datent de dizaines d'années. Pour Louis XI, tous les religieux doivent justifier leurs revenus. Parmi les décisions prises par le souverain, une des plus impopulaires a été la suppression du droit de chasse. Pour Pierre, c'est pourtant la possibilité de trouver un gibier en quantité plus importante, tout en sachant qu'il est plus dangereux de tuer un cerf qu'un homme. Prohibition, répression, pillage n'empêchent pas cette petite famille paysanne de subsister. Depuis sa naissance, Pierre n'a jamais vécu une situation matérielle si encourageante. Sa propre exploitation lui permet désormais de vendre le surplus de sa production au marché de Beauvais. En 2 ans, la famille de Jeanne a amélioré son mode de vie. On se nourrit mieux et il devient même envisageable de faire des économies. Jeanne, d'ailleurs, entend ses parents se quereller à propos de l'achat d'un cheval pour tracter la charrue au lieu d'utiliser celui des voisins. Le 3 avril 1462 meurt l'évêque. Tout le monde parle de ses bienfaits. Il a même offert à la cathédrale de Beauvais une série de tapisseries racontant la vie de Saint-Pierre et célébrant le pain. Non, je recommence. Et célébrant la paix qui a été signée à Tours entre Charles VII et Henri VI d'Angleterre. Jeanne les a admirés quand elle est venue avec sa mère répéter les chants pour la fête de Pâques. À la mort de l'évêque, le petit peuple sent que quelque chose est en train de changer. Au lieu de laisser au chapitre le droit d'élire l'évêque, comme cela se pratique depuis toujours, Louis XI nomme lui-même Jean de Bar, évêque de Beauvais. Alors les Beauvaisiens réalisent combien ils pourront obtenir d'avantages en se rapprochant de la cour. On parle aussi dans les campagnes du rachat par le roi des villes comme Amiens, Corbie ou Saint-Quentin qui protégeront le Beauvaisis contre d'éventuels envahisseurs. Pierre et la Marois se sont d'ailleurs installés très près de Beauvais en espérant se mettre ainsi sous la protection d'un seigneur ou même du roi. Le printemps est là, les jours sont plus longs. Après avoir terminé son travail, Jeanne peut jouer plus longtemps dehors sans être obligée de mettre son manteau doublé de brebis et refait à neuf cet hiver pour aller à la chasse. C'est la première année qu'elle va garder les moutons. Elle apprend à surveiller les bêtes de manière à ce qu'elles ne touchent ni au colchique empoisonnant, ni à la ciguë. Et en même temps, elle fait des petits travaux de raccommodage. En fait, elle ne travaille pas beaucoup parce que les moutons courent partout. Lorsque les bêtes sont plus tranquilles, elle amasse un petit fagot pour la maison. Et voilà que la Marois tombe malade. Elle s'est couchée les joues en feu. On fait venir la sébile pour lui tirer les fièvres. Cette dernière accroche au cou de la Marois un sachet contenant des noms magiques pour éloigner le mal. Eh bien, je peux vous dire que la mère de Jeanne n'y croit pas du tout. Elle fait chercher le prêtre, car elle sait qu'elle va mourir bientôt. Elle a élevé Jeanne comme sa propre fille. Ainsi, ce n'est pas sa faute. Jeanne lui a été confiée par une dame Isandre, un peu avant Noël 1454. Jeanne avait alors 20 jours. Dame Isandre a envoyé régulièrement de l'argent, et puis un jour, plus rien. Elle et Pierre ont décidé de garder Jeanne. Que va-t-elle devenir si elle meurt ? Quand elle l'a accueillie chez elle, le premier geste de la Marois a été de la faire baptiser et de lui donner le prénom de Jeanne, en souvenir de la grande Jeanne d'Arc. Elle n'a jamais eu à la corriger. Pour la distraire, il suffisait de la laisser jouer avec sa toupie. L'enfant a vite appris à aimer Dieu et son prochain. La Marois meurt et on organise une veillée. La voisine, la brunette, n'oublie pas de mettre en deuil les abeilles, le troupeau de moutons, et le chien avec un chiffon noir. La maman ne laisse en héritage que quelques pièces gagnées par ses travaux de lavandière et un paquet contenant une quantité importante de pierres d'alun. Eh bien, l'alun, vous savez, c'est destiné à la teinturerie, donc on pourra toujours le vendre, ça fera de l'argent. Cet alun, il lui a été offert par Henri Bonguet, qu'elle a sauvé de la mort. C'est un cadeau extrêmement rare. Après l'enterrement, Pierre et Jeanne se retrouvent seuls à la maison. Il prend alors conscience qu'il ne pourra pas garder l'enfant. Il ne pourra pas vraiment lui donner une chance de se marier, de faire un mariage de qualité. Comment l'élever tout seul ? Jeanne a beau ne pas être une girouette, on doit lui enseigner l'obéissance et la soumission. Elle ne doit être ni hardie, ni convoiteuse, ni prodigue, ni quémandeuse. Surtout, il faut lui apprendre un métier qui soit capable de lui occuper l'esprit et de la détourner du mal. Elle doit apprendre à être une bonne fille, à ne pas se faire remarquer. Elle a 10 ans. Pierre est déconcerté par cette fillette qui a une grande capacité à accepter les malheurs de la terre. Pour elle, les épreuves sont inévitables et elle ne pose jamais de questions. Douée d'une vive intuition, elle vit en accord avec la nature et la mort de sa mère n'est qu'un événement parmi d'autres. Simplement, Dieu l'a rappelée, alors elle est au paradis. Pierre réfléchit et prend sa décision. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de la petite Jeanne que l'on va surnommer plus tard Jeanne Hachette. La maman vient de mourir et le papa ne se sent pas d'attaque pour élever toute seule Jeanne. Alors Jeanne sera confiée à la mère l'aînée, la veuve d'un officier du roi. Ainsi, la fillette sera élevée dans les règles, à l'abri des luttes paysannes. Le seul défaut de la veuve l'aînée, c'est son ambition démesurée parce qu'elle voudrait bien devenir intendante de la maison du gouverneur de Beauvais. Jeanne ira travailler à la draperie. Quand elle sera plus grande, elle pourra aller aux foires de Clermont ou de Senlis et se trouver un mari. Mai 1464, Jeanne, montée sur une mule, pénètre dans Beauvais par le pont de Paris. Pierre l'accompagne. La mère l'aînée habite rue du Puy-Gessôme, près de la porte de Paris. Jeanne est absorbée par le paysage, persuadée que les vallons qu'elle aperçoit et les prés seront bientôt le théâtre de ses jeux et de ses parties de pêche. Ben oui, la pauvre, elle n'imagine pas la vie qu'elle va mener à Beauvais. Pierre, finalement, désire retarder le moment de la séparation. Il regarde Jeanne avec attendrissement. Il lui dit que la mère l'aînée sera bonne pour elle, qu'elle lui apprendra les manières. Il faudra lui obéir. Sinon, tu seras jetée à la rue et il n'y aura plus personne pour s'occuper de toi. En regardant la ville, on admire ses remparts. Les habitants ne cessent de consolider leur défense. Les Anglais l'ont incendiée en 1346. Il y a eu la jacquerie, c'est-à-dire une révolte paysanne, qui l'a donc menacée 10 ans plus tard. La ville est devenue bourguignonne en 1411 et elle est perpétuellement écartelée entre la seigneurie locale, le pouvoir royal et l'évêché. Les portes de la ville sont ouvertes. Il faut laisser la mule à l'extérieur parce que les rues sont si exiguës et envahies par des éventaires et des boutiques qu'on ne pourrait pas circuler. Ils arrivent, une porte basse, pas d'enseigne, une femme entre deux âges paraît. C'est la mère l'aînée. Accueillante, elle ouvre les bras pour enlacer Jeanne, qui, peu habituée à cette manifestation, a un mouvement de recul. On monte 3 étages. Voici la chambre de Jeanne, pas très grande, propre, avec une paillasse. Le seul meuble, un coffre sur lequel Jeanne pose ses affaires. Et Pierre finalement part sans prononcer un mot. Pour Jeanne, le bruit de la ville est épouvantable. L'air n'a pas la qualité de celui que Jeanne respirait à Bousseau. L'eau a un goût trop fort, rien à voir avec celle de la campagne toujours fraîche. Ici, le mobilier est plus raffiné que chez elle. Après le repas, Jeanne lave les écuelles, puis balaye le sol. La mère l'aînée lui précise qu'elle ne doit pas rester à ne rien faire, ni traîner dans la rue. Demain, elles iront à la draperie où on lui apprendra un métier. Un chagrin immense envahit Jeanne. Le monde décrit par la dame aînée est étranger à son propre univers. Il faut se rendre utile, mais à quoi et dans quel but? Jeanne ne comprend pas tous les mots employés par la mère l'aînée. Et puis comment allait-elle reconnaître les saisons? Avec la vente de la pierre d'Alain, la veuve va lui acheter des vêtements et puis avec le reste, ça servira à payer sa nourriture jusqu'à ce que Jeanne ait ses premiers gages. La mère l'aînée ne voit pas le chagrin de l'enfant déchiré et angoissé au seuil d'une vie nouvelle, loin de ses champs et de sa liberté. Aujourd'hui, la veuve va lui montrer le chemin de la braperie et ensuite, elle ira seule. Nous allons faire une dernière pause musicale. Nous sommes sur Radio Orangeliel. Je vous raconte la vie de la petite Jeanne, qui deviendra plus tard Jeanne Hachette, qui a été arrachée à sa campagne par la mort de sa mère et qui se retrouve dans Beauvais où elle va devoir travailler. Elle vit chez une dame, Madame Lainée. Tout n'est que confusion pour Jeanne. Traverser une rue devient une expédition périlleuse. Toutes les maisons se ressemblent. Il faut éviter de marcher dans la boue. La mère Lainée ne cesse de parler. Enfin, elles arrivent devant la fabrique. « Demain, dit la veuve, je te présenterai au tisserand. Tu commenceras comme apprentie briseresse, c'est-à-dire celle qui prépare la laine avant le cardage. Tu seras payée l'équivalent de 6 livres de pain par jour. À midi, tu mangeras à la fabrique les repas que tu auras apportés le matin. » La veuve et la fillette retournent à la maison. Elle est toute retournée par le remue-ménage des rues. Elle grimpe rapidement jusqu'à sa chambre, interpellée par la mère Lainée qui lui dit qu'elle doit maintenant faire un petit lavage de linge. Elle ajoute qu'elle n'aura plus à aller au champ des moutons, qu'elle n'aura plus à s'occuper de la terre. Eh bien justement, c'est ce que Jeanne regrette. Jeanne en a assez entendu, elle se couche épuisée. De la fenêtre, elle aperçoit un croissant de lune légèrement voilé par un halo de brume et pense qu'il pleuvra dans les jours prochains. Elle a du mal à s'endormir, songeant à sa maison, à ses voisins là-bas, loin de Beauvais. Les saisons ne se feront plus comme avant. Depuis son arrivée à Beauvais, Jeanne partage la vie difficile des habitants. Ils ont subi deux épidémies de peste. Elle y a échappé. Et voici que Beauvais est menacé par la nouvelle coalition entre le duc de Bourgogne et le duc de Bretagne. La ville est petit à petit envahie par des gens de guerre. Chaque foyer doit loger deux militaires. Madame Lainée hérite de deux arbalétriers. Le couvre-feu est institué. Les soldats pénètrent dans les maisons, volent tout ce qu'ils peuvent. La ville est en alerte. Louis XI fait lire une lettre qui dénonce les intrigues de ses ennemis. Il réclame de la population de Beauvais le courage de chasser ces traîtres du royaume. Jeanne a 14 ans. Elle n'est ni belle ni laide, un peu maigre. Elle souffre de sa vie sédentaire. Elle vit dans un milieu féminin, ses compagnes d'atelier. Elle puise dans ses souvenirs d'enfance pour y trouver un peu de joie. Elle ne confie à personne sa méfiance envers ses congénères et recherche tous les chemins qui mènent à Dieu. Elle s'habille maintenant comme une citadine et irréprochable, nette. La vie citadine l'éloigne peu à peu de sa perception quasi magique de la campagne. Les lettres de Louis XI portent des fruits, on fabrique des catapultes, les arbalétriers s'entraînent jour et nuit, on confectionne les munitions, la guerre n'est pas loin. Au revoir à tous.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Par trahison à chaque instant, par trahison à chaque instant, par trahison à chaque instant.